L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 2h22 du matin, ce 11 octobre 1632, dans la ville fortifiée de Loudun, en France. Nous sommes au cœur du cloître du couvent des Ursulines de la ville. Jeanne des Anges, la mère supérieure du couvent, l'échine hérissée de haut en bas se déplace en longeant les loges des sœurs comme une protection. Depuis un mois, le couvent est comme habité par un démon qui vient rendre visite aux religieuses la nuit. Mais dans quelques instants, l'affaire va prendre une toute autre tournure. 2h22 du matin, l'heure H de mon histoire. Ce n'est pas un fantôme qui s'adressera à la mère supérieure dans le cloître. La voix qu'elle entendra, c'est bien celle d'un vivant, le prêtre de la paroisse voisine, Urbain Grandier. Et elle le reconnaîtra instantanément. Alors même, tenez-vous bien, qu'elle ne l'a jamais vu. La terreur règne à Loudun depuis le 21 septembre. Déjà, la mère supérieure a été témoin d'une apparition, également constatée par deux autres sœurs. Elles ont vu un mort, le confesseur du couvent décédé quelques mois plus tôt. Et depuis, cette ombre qui vient frôler son épaule la nuit et qui lui parle ne cesse de tourmenter Jeanne des Anges. Plus étonnant, deux jours après cette première manifestation, en pleine journée, une boule noire, comme remplie d'énergie, est venue perturber les offices religieux. Depuis, c'est l'escalade. Ce soir, plus que les autres, la nuit est d'une noirceur que seuls ceux ayant vécu au XVIIe siècle peuvent connaître. Jeanne des Anges prie. Elle a fait vœu de silence une fois le soir venu. Alors, c'est bouche cousue qu'elle pratique ses rites oraux. Dans un cloître, balayé par le vent et la pluie fine du dehors, seuls résonnent ses pas, discrets, presque imperceptibles. Les sœurs dorment, leurs mains agrippées sur des crucifix. En passant, Jeanne perçoit derrière les portes les souffles courts et la tension. C'est le résultat d'une terreur ignoble, celle qui ne les quitte plus depuis un mois. Et Jeanne des Anges, qui tourne en rond dans ce cloître, à peine éclairé par un faiblard croissant de lune, prie pour son salut. Elle est seule face à ses responsabilités de mère supérieure. Seule face au mal venu des profondeurs. Pour consolation, et non des moindres. Elle est de celles qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu. Le Seigneur se tient donc là, tout près. Elle en est persuadée. La ville de Loudun, elle, dort paisiblement. Bien à l'abri derrière des fortifications immenses, un donjon de près de 14 mètres de diamètre vient couronner cet ensemble architectural issu des temps anciens. Situé à la frontière entre croyances catholiques et protestantes, l'édifice fait l'objet de tensions émanant du pouvoir royal et plus particulièrement de la personne la plus puissante du royaume, le cardinal de Richelieu. Le prélat a envoyé ses équipes d'ouvriers les plus qualifiés pour détruire ses remparts. Enfin, hors de question pour lui, comme pour le roi, de prendre le risque de subir de nouvelles rébellions après celle de La Rochelle et d'autres cités de l'ouest de la France. Il faut donc détruire toutes les fortifications qui ne sont pas indispensables. Et ici, un homme s'y oppose. Il s'agit d'Urbain Grandier, le curé de la paroisse voisine du couvent. Celui-là même dont Jeanne des Anges entendra la voix. En repensant ces derniers mois, la mère supérieure ricoche dans son esprit sur un événement qui l'a affecté. Quand est mort le premier confesseur du couvent, elle a proposé le poste au curé Urbain Grandier, qu'il a refusé. Assez déçue, Jeanne des Anges l'a alors donné à un chanoine, ennemi juré de Grandier qui, il faut bien le dire, traîne une assez mauvaise réputation. Il séduit les femmes, les charme. Il les met dans sa couche. Pour un homme de Dieu, voilà un défaut quelque peu encombrant. Et voilà que la mère supérieure repart dans ses pensées les plus sombres. Le vent, lui, s'est progressivement installé au cœur du cloître et fouette les instruments de culte, faisant frissonner les pierres des linteaux. La zone est en alerte et Jeanne des Anges, elle, continue de tourner, refusant de voir ce qui se profile là, droit devant elle. Au centre du cloître se trouve un petit carré de verdure dans lequel sont disposées une fontaine et quelques bancs de pierre. La lune de son éclat vient frapper un bouquet de roses qui se trouve là depuis la veille. Personne n'a su lui dire qui est venu déposer les fleurs. Par peur du démon, personne n'y a touché non plus. Serait-ce une tentation de ce curé qui aime trop les femmes? Cherchait-il, par ce cadeau souillé du sceau du malin, à la faire dévier de son amour pour Dieu? Détournant le regard, Jeanne des Anges se refuse à contempler ces fleurs que le froid de l'automne a déjà défraîchies. La fontaine, elle, ricane. L'eau qui s'en écoule semble presque, au travers du vent, déclamer des paroles impies, toutes ponctuées des mêmes syllabes. Grandier, grandier, grandier! Les bourdonnements dans sa tête et dans son esprit sont insupportables. Ils arrivent par vagues, repartent, puis reviennent plus fort. L'obscurité, sombre et agressive, grogne à la manière d'une meute de loups. Les soldats du diable, eux, sont en chemin. La mère supérieure le sent. Oh, elle voudrait hurler, avertir ses sœurs, mais le soir venu, le vœu de silence occupe une place tellement sacrée qu'il est impossible de le briser. Rentrer dans sa cellule pour s'y cacher, ce serait abandonner à la nuit les jeunes esprits tourmentés de ses ouailles. Alors, à la manière des Templiers de jadis, comme absorbée par une mission qu'elle s'impose, Jeanne des Anges se cramponne avec force à l'un des piliers de pierre bleue. Le Seigneur est là lui aussi, elle le sait. Elle n'est jamais seule. Saint-Michel, Saint-Georges, les pourfendeurs du mal sont avec elle. Jeanne poursuit sa ronde, alors que le vent se fait de plus en plus fort. La fontaine qui coule dans un bruit de ricanement dégage des effluves putrides. Elle semble laisser échapper des mots incompréhensibles en latin. L'éclat de la lune est devenu rouge. L'eau ressemble à de la lave et la sœur, seule âme pure dans un endroit pourtant consacré au Seigneur, s'avance parmi les démons. Elle ne les voit pas, camouflés dans le noir. Mais déjà, elle sent que se concentre sur elle la furie du vent. Ce dernier passe entre les colonnes, vient lécher avec force le rebord des pierres, s'engouffre sous sa bure, jusque dans des endroits loin d'être anodins. Et comme à son habitude, Jeanne essaie de se persuader que ce n'est que le fruit de son imagination, bien qu'elle subisse les pires sévices depuis un mois. Et si elle n'était finalement que la victime d'un mauvais rêve? Peut-être s'est-elle assoupie, là, quelque part, le long d'un muret? Non, non, hélas, tout ceci semble maintenant bien trop réel. La voilà dans la dernière ligne droite avant la porte de sa cellule. Il ne lui reste que 50 pas à faire. Et si finalement, aller prendre un peu de repos n'était pas salvateur? 40 pas. Allez, Jeanne, tu peux y arriver. 30 pas. Les gonds des portes des cellules des sœurs, battues par le vent, semblent lui murmurer les pires obscénités. 20 pas. La peur la saisit. Que dis-je? La terreur la saisit. Des chevilles aux épaules, le poids du paranormal l'attrape. 10 pas, Jeanne, 10 pas, allez. Elle a presque la main sur la poignée de la porte, quand derrière elle, saisissant sa bure par le haut, une manifestation vient lui faire opérer subitement un demi-tour. Bonsoir, ma mère. Oh mon Dieu. Elle reconnaît cette voix et cette silhouette. Urbain Grandier. Un hurlement strident déchire la nuit noire de Loudun. Puis plus rien. La fontaine et la lune ont repris leur aspect habituel. L'obscurité, elle, a repris ses droits. Le silence, lui, a été brisé. Notre histoire commence quelques années auparavant. Nous sommes alors en juillet 1617. Arrive à Loudun, sous un soleil de plomb, un jeune curé, tout droit sorti du séminaire. Grand, athlétique, le nez aquilin, la verve fraîche et convaincante. Il porte la moustache longue et le bouc en pointe. C'est la mode à l'époque. Il sifflote, tout guilloré et joyeux qu'il est de prendre enfin possession de sa paroisse. Devant lui, baigné par le soleil qui la frappe sans vergogne, l'église Saint-Pierre du Marché. Urbain Grandier, c'est le nom du héros de notre histoire, est ravi. Alors qu'il transpire sous sa soutane, il se réfugie bientôt à l'ombre des gargouilles et de l'édifice. Une absolue merveille de l'art gothique. Immense, imposante, cette église fait la fierté de la paroisse la plus riche du coin. L'évêché est ravi d'avoir choisi le jeune Urbain pour y officier. Le dynamisme doit être au cœur de toute chose à Loudun. En effet, ici, catholiques et protestants cohabitent. Et même si la paix a eu raison des guerres de religion depuis presque 30 ans, autant vous dire que la situation reste particulièrement tendue. Il faut dire que les guerres de religion ont animé de manière très vive les affaires du royaume pendant longtemps. Catherine de Médicis et ses fils y sont pour quelque chose. La Saint-Barthélemy, massacre en règle de milliers de protestants, a entretenu un brasier qui couvait déjà depuis longtemps. Elle a eu lieu il y a tout juste 50 ans, en 1572. C'était en 24 août. Et depuis lors, chaque année, les protestants à cette date ont pour certains tendance à se renfermer chez eux. Tu m'étonnes, pense le jeune prêtre en humant l'air autour de lui. Tout a été déclenché à Paris, certes, mais dans tout le royaume. Le bilan a été particulièrement lourd. On l'estime entre 10 et 30 000 tués ou disparus. Un drame national et la fin de la paix entre deux factions religieuses à couteau tiré bien longtemps avant ce terrible événement. C'est tout de même une sacrée promotion que d'obtenir ce poste. Mais soit, Grandier, lui, est loin de tout ça. Il profite, sous les yeux de quelques curieux, de ce magnifique endroit qu'il peut dorénavant appeler maison, tout comme elle est la demeure de Dieu. Gargouille et Saint gardent les portes à la manière d'une armée de pierre. Lorsqu'il entre enfin dans la nef, qui devient la sienne, Urbain Grandier, sous les auspices de la fraîcheur retrouvée, expose sa joie aux quelques paroissiens qui s'y trouvent. Le jeune prêtre vient de vivre le premier coup de foudre de sa vie. Oh, il y en aura d'autres, rassurez-vous. Rapidement, l'église Saint-Pierre du Marché devient le lieu de rendez-vous attendu. Le prélat, du haut de sa chaire, déploie sermons et conseils avec une étonnante facilité, se couvrant de gloire et inspirant le respect. Son auditoire est fasciné, tant par la forme que le contenu de ses propos. Le jeune homme est particulièrement charismatique. Il est beau. Les paroissiennes, plus que les paroissiens, commencent déjà à lui faire de l'œil, ce qui n'est pas dès le départ pour lui déplaire. Les témoignages de l'époque nous rapportent que ses interventions dominicales sont très attendues. C'est le grand spectacle, tous au théâtre. Celui qui a un peu plus de 30 ans étonne aussi par sa liberté de pensée qui déjà se matérialise. Sa popularité atteint son zénith, il est introduit dans toutes les grandes familles de la ville. Son influence est réelle. Eh bien, en somme, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais voilà, vous le savez bien. Notre condition humaine nous oblige à composer avec des défauts et des pulsions qu'il faut pouvoir contrôler et maîtriser. Et ce, d'autant plus, vous en conviendrez, lorsqu'on devient prêtre. Eh bien, la torture d'Urbain Grandier, elle, est féminine. Et rapidement, le célèbre beau gosse de la chrétienté régionale va commencer à faire parler de lui de manière négative. En effet, connaître les plaisirs de la chair ne lui paraît pas problématique. Il commence donc à séduire certaines de ses paroissiennes. Un jour, il rencontre la fille du procureur du roi, âgée de 15 ans, à qui il doit enseigner le latin. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont vers d'autres pratiques que les jeunes gens se tournent. Et patatras, pour ne rien arranger, la petite tombe enceinte. Tollé général, scandale absolu. D'autant que le beau papa est tout de même un notable qui compte et qui pèse dans la région. Grandier devrait assumer cet écart. Eh bien, au lieu de ça, courage, fuyons. Il s'entiche d'une orpheline de sa génération, issue de la haute noblesse. Mais plus maligne, cette dernière réclame le mariage. Et aussi fou que cela puisse vous paraître, Grandier va accepter. Mais si vous pensez qu'il va pour autant renoncer à son statut de prélat, que nenni. Le Trublion a d'autres idées en tête. Cette femme avec laquelle il se met en ménage, Madeleine de Broux, est l'amour de sa vie. Alors qu'elle souhaite entrer dans les ordres, il l'en dissuade. Grandier rédige donc un traité sur le célibat des prêtres, et cela tombe mal. Alors qu'au siècle précédent, l'Église était peu regardante sur ce qu'il se passe dans les esprits de ses soldats, c'est beaucoup moins le cas au XVIIe siècle, où on resserre la vis à ce sujet. Les petites incartades de Grandier font donc beaucoup parler, et notamment ce traité. En tous les cas, les deux amoureux se marient au cours d'une cérémonie hallucinante, où le prêtre qui officie est en même temps le marié. Quelques semaines après ce nouvel épisode dans cette saga qui en compte déjà de nombreux, Jeanne des Anges, notre héroïne de tout à l'heure, propose à Grandier de devenir le nouveau confesseur du couvent des Ursulines, qui jouxte la paroisse. Elle ne l'a jamais vu, mais en a entendu le plus grand bien. Grandier refuse. La mère supérieure s'offusque et confie le poste à un chanoine mignon qui n'en a que le nom. Il déteste Grandier et sa réputation scandaleuse. Les ennemis se multiplient pour le curé, notamment parmi la gente masculine. Au cours des décennies 1620 et 1630, la ville de Loudun est divisée en deux à son sujet. La cabale prend forme et va se décider bientôt à agir contre lui. C'est au début des années 1630 qu'un autre personnage déterminant de notre histoire entre en scène. L'omnipotent Richelieu, ministre principal de Louis XIII. Les deux hommes se connaissent un peu, mais nous y reviendrons. Et surtout, Loudun est au cœur des projets du cardinal. Il veut faire sauter toutes les fortifications non essentielles de France, de peur de voir des rébellions couvées au sein de ses places fortes. La ville de Loudun étant la frontière entre les deux régions religieuses du royaume, il est clair pour lui que l'immense donjon et les dizaines de tours qui cernent les habitations doivent disparaître. Et comme une mauvaise idée n'arrive jamais seule chez notre séducteur de curé, Urbain Grandier a l'excellente intuition de s'opposer à ce projet, prétextant que ce patrimoine doit être conservé. Il y gagne donc que des yeux très puissants viennent se pencher sur ses extravagances. C'est sur ces entrefaits que Jeanne des Anges et la dizaine de sœurs qui habitent au couvent avec elle commencent, de manière inexpliquée, à se sentir possédées par le diable. Il se matérialise la nuit sous les traits d'Urbain Grandier. Nous sommes là en octobre 1632. La situation va aller de mal en pis. À la fin du mois, la mère supérieure est prise de convulsions en plein milieu des prières des Laudes, au lever du jour. Les sœurs courent avertir le confesseur du couvent. Vous vous souvenez? Le chanoine mignon, qui n'en a que le nom. Après observation, il statue que Jeanne des Anges est possédée par le diable. Le corps est toujours à cette époque le réceptacle de la possession démoniaque. Et contrairement au Moyen-Âge, les croyances évoluent. Le diable, ou la cohorte de démons qui l'accompagne, peut pénétrer des organismes à travers la demande d'un sorcier ou d'un curé. Et là, vous me voyez venir. La mère supérieure en est persuadée. Le sorcier, c'est Urbain Grandier. Le bouquet de roses, c'est ça le moyen par lequel Grandier, sans jamais l'avoir vu, a pu la posséder. Le chanoine, qui déteste Grandier, s'empresse alors de faire venir un prêtre exorciste de Chinon. Une star de la pratique à l'époque, ce qui, de fait, permet de populariser l'événement. Les exorcismes menés avec vigueur au sein du couvent sont un mélange d'actes de prière ou d'usage d'objets sacrés. Mais rien n'y fait. À la fin de l'année, ce sont pas moins de 17 sœurs qui seront déclarées comme étant possédées. L'une d'entre elles est surprise dans sa cellule en train de se servir d'un crucifix d'une manière tout à fait inappropriée. Grandier commence à sentir le vent du boulet arriver. Il est arrêté sur demande de l'évêque de Poitiers, mais il ne se laisse pas abattre, il est innocent. Il contacte l'archevêque de Bordeaux qui prend le dossier en main et décide de mener une enquête bien différente. Interrogatoire individuel des sœurs, examen séparé et plus important encore, prouver que le diable se cache bel et bien en chacune d'entre elles. À l'époque, on estime que des traces sont laissées par son passage. Des manifestations corporelles surnaturelles, comme le don de comprendre des langues qu'elles ne sont pas censées pouvoir parler, ou des connaissances, là aussi, hors de leur portée. Par souci de professionnalisme, l'archevêque de Bordeaux envoie son propre exorciste. Mais oh stupeur, ce dernier est refoulé à l'entrée du couvent par le chanoine Mignon qui lui annonce que le diable a quitté les lieux. Grandier est donc mis hors de cause. Il est libéré et acquitté une première fois. C'est la fin du premier acte. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se déroule dans une petite ville fortifiée au cœur de la France du XVIIe siècle, Loudun. Là, dans un couvent d'Ursulines, les sœurs sont subitement frappées par une série de cas de possession. Comble de l'horreur et de la stupeur, elles dénoncent le curé Urbain Grandier comme étant le sorcier ayant fait entrer le diable en elles. Une première enquête est menée, d'abord sous la tutelle de l'évêque de Poitiers qui croit les sœurs possédées et fait arrêter Grandier. L'un de ses nombreux ennemis, le chanoine Mignon, pousse pour sa condamnation, mais l'appel à l'archevêque de Bordeaux par l'accusé provoque son acquittement. En effet, on annonce à l'exorciste envoyé par le prélat que le diable est parti. Avec soulagement, Grandier retrouve donc sa liberté. Ses aventures, elles, sont loin, très loin, d'être terminées. Nous sommes le 30 novembre 1633 au cœur de Paris. Le baron de Laubardemont arrive à cheval au palais du Louvre. Il est attendu par Sa Majesté le Roi et son ministre principal, le cardinal de Richelieu. Le baron vient rendre compte de la destruction du donjon et des murailles de la ville de Loudun, mission à laquelle il est dévolu depuis près de 2 ans déjà. Chapeau à plumes bleu nuit sur la tête, la dernière des tuniques à la mode dans le microcosme de la cour sur le dos, le baron s'avance dans les couloirs d'un pas chaloupé. Il ignore tout, en réalité, de ce que Louis XIII va bien pouvoir lui demander. Il sait juste que cette entrevue doit porter sur Loudun. Il fait froid dans les couloirs du Louvre. Les vitres sont couvertes de gouttes de pluie et les grandes allées drapées de tentures ne font pas illusion. Derrière elles, une multitude de champignons d'humidité prolifèrent, dégageant une odeur parfaitement insoutenable. Enfin, le baron est introduit. Dans une pièce où la pénombre plonge ceux qui y entrent dans une atmosphère des plus étranges, le souverain, debout face à la fenêtre, regarde à l'extérieur entre les rideaux. Il ne dit pas un mot. C'est Richelieu qui explique au baron sa mission de A à Z. Le vieillissant cardinal a eu vent de l'affaire des possédés de Loudun. Et cela l'inquiète beaucoup. Des enfants de Dieu tombés aux mains du diable, voilà une affaire qui mérite toute l'attention de la couronne. Sans les regarder, le roi, toujours les yeux rivés sur la fenêtre, acquiesce. Le cardinal, enfin le roi, a donc décidé de renvoyer le baron sur place en qualité d'inspecteur extraordinaire. Objectif ? Reprendre depuis le départ toute cette affaire de possession et en comprendre pour de bon les tenants et les aboutissants. En sortant, le baron, certes promu, n'est pas bien emballé. Il déteste cette foutue ville, mais en homme de devoir, investi d'une mission, il prend la route à cheval avec quelques compagnons dès le lendemain. Urbain Grandier et le baron de Laubardemont se connaissent. Ils se détestent cordialement d'ailleurs. Il faut dire que le curé est un opposant déclaré à la politique de destruction. Et lorsqu'il revient sur place, chargé de sa nouvelle mission, le baron constate avec joie que le processus est en cours. L'ouvrage est lent, fastidieux, et il faudra près de 3 ans pour tout détruire. L'intérêt de Richelieu pour cette affaire et cette région n'a rien d'anodin. En effet, à une 20aine de kilomètres à l'ouest de Loudun, il décide de faire bâtir, à la même époque, une ville qui, comble du narcissisme, va porter son nom. Le tout accompagné d'un château plus magnifique que tous les autres et dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Il a donc tout intérêt à faire en sorte que les environs de ce petit paradis soient totalement pacifiés. D'où l'envoi de Monseigneur le Baron pour régler une fois pour toutes cette affaire de possédé. Le hasard n'est jamais qu'une notion faite pour ceux qui craignent de croire à la destinée, disait l'autre. Il se trouve que le baron est de la famille de la mère supérieure possédée et que sa femme est liée à 2 autres victimes de cette possession. Le chanoine Mignon y voit une possibilité de faire condamner ce séducteur de Grandier. L'affaire est sur le point de basculer, d'autant que ce baron n'est pas un amateur. Il a déjà envoyé près de 120 personnes au bûcher pour sorcellerie durant sa carrière. Son objectif est clair. Faire tomber l'homme qui est responsable de la possession des sœurs, dont certaines sont de sa famille. La guerre est donc déclarée. 2 actions vont alors être mises en place. D'abord, le roi signe un acte de mise en accusation et d'emprisonnement du curé. Et puis, on convoque la tenue d'une procédure extraordinaire durant laquelle le baron est le seul qui sera juge de l'affaire. Cette procédure extraordinaire est très peu utilisée dans la France moderne de l'époque. C'est un artifice dont se sert Richelieu dans d'uniques cas d'affaires politiques. Mais alors, vous allez me dire, quel est le lien ici avec notre affaire religieuse ? C'est bien le problème. L'affaire des possédés de Loudun semble devenir, à compter du début de l'année 1634, une affaire bien plus politique que religieuse. Le pouvoir en place, lui, souhaite bien entendu dissimuler tout cela derrière le voile de la chrétienté. Impitoyable, le baron lance la machine judiciaire. L'acquittement du curé par l'Église n'a plus d'importance puisque c'est dorénavant une procédure civile qui va s'ouvrir. Urbain Grandier est sous le choc, abasourdi de se retrouver une nouvelle fois derrière les barreaux. Une perquisition est menée chez lui. On n'y retrouve rien, si ce n'est ce fameux traité contre le célibat des prêtres, vous vous souvenez. Voilà une première pierre dans son jardin. Envoyé en prison au château d'Angers, il ne peut avoir aucune prise sur ce qui se passe à Loudun. L'envoyé de Richelieu fait recommencer l'enquête. Interroge de nouveau les sœurs, qui sont exorcisées de nouveau en sa présence. Le piège se referme. Des examens sont menés par des médecins et des apothicaires. Tout ce petit monde juge que le diable est bien présent, que les sœurs sont soumises à des éléments non naturels, notamment une force surhumaine. Et là, tout le monde s'emballe. Les exorcismes deviennent des moments où le public est convié. Comme au jeu du cirque, le petit peuple se presse pour voir les scènes de spectacle où les sœurs, dans des positions très sexuelles, blasphèment et hurlent. La moitié de la foule, au moins, s'y rend pour rire, sans croire à ce qu'ils peuvent voir. Du plaisir de mauvais goût, en somme, qui attire une multitude de touristes qui font vivre Loudun. Les hôtels sont pleins, les gens y restent plusieurs jours. On y voit même des étrangers. Les opinions, elles, sont très partagées. Simulation des sœurs ou juste croisade de la grande église catholique contre un sorcier venu semer le trouble? La résonance de cette affaire dans tout le royaume est dingue. Rapidement, tout le monde est soit pour ou contre Grandier, soit pour ou contre Richelieu. Le baron sur place instruit à charge. Il menace de châtiments corporels ceux qui viendront dire que les possessions sont fausses ou simulées. Alors qu'au début de l'année 1634, trois religieuses viennent le trouver pour confesser qu'elles n'ont finalement jamais été possédées, il leur répond que c'est le diable qui parle en elles, qu'elles ne savent pas ce qu'elles disent. Ouais. Vous l'aurez compris, Urbain Grandier, pris à la gorge, risque de passer un sale quart d'heure. Le procès lui va s'ouvrir alors que l'accusé est ramené à Loudun et il promet d'être aussi explosif qu'expéditif.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H traite une affaire des plus particulières, celle de la possession des sœurs de Loudun. Au cœur de l'hiver 1632, des religieuses se retrouvent possédées et racontent avoir vu apparaître au cœur de leur transe l'un des curés du village, Urbain Grandier. Une première fois acquitté par la justice ecclésiastique, l'homme de Dieu, opposant déclaré à la politique de Richelieu, se voit être de nouveau mis en cause. Et ce, dans le cadre d'une nouvelle enquête menée par un baron proche du pouvoir et chargé de pacifier la zone. Emprisonné sur ordre du roi, Grandier voit l'étau se resserrer autour de lui. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place et ce baron, qui est clairement là pour le mettre sur le bûcher, va s'y employer, quitte à falsifier les témoignages des sœurs qui reviennent sur leur version initiale. De retour à Loudun, après 4 mois d'emprisonnement au château d'Angers, le curé Urbain Grandier sait pertinemment qu'il joue sa vie sur cette affaire. Ses ennemis, eux, l'attendent de pied ferme. Le premier d'entre eux, le chanoine Mignon, qui sera chargé de l'interroger. Urbain Grandier décide d'en appeler au roi, afin de faire repentance et clamer une fois pour toutes son innocence. Mais malin, Richelieu, du fait de la nature même de la procédure extraordinaire, empêche tout appel. De manière totalement délibérée donc, le pouvoir décide de supprimer aux prêtres les voies de recours. Son courrier à Louis XIII, comme vous pouvez l'imaginer, va rester lettre morte. Sa combativité face à l'inévitable impressionne. Le baron, lui, cherche des preuves concrètes. À compter d'avril 1634, l'accusé est installé dans le grenier du chanoine Mignon qui n'en demandait pas tant. Et il va subir des interrogatoires. Premièrement, il est décidé d'organiser une confrontation entre les possédés et Grandier. Dans les faits, ils ne se sont jamais vus. Dans un éclair de génie, l'accusé demande qu'on le mette au milieu d'autres moines. Ainsi, le fait de le reconnaître ou non aura une vraie valeur. Demande refusée. Comme vous pouvez l'imaginer, une fois les sœurs dans la pièce et au contact de l'homme d'église Urbain Grandier, elles se jettent à son cou et tentent de lui arracher ses vêtements. Grandier, lui, se distingue par son calme. On renvoie les sœurs à leur activité. Le lendemain, il est convoqué afin de voir si on remarque chez lui les marques du diable, qui sont réputées à l'époque pour être insensibles. Pour ce faire, on le rase de la tête aux pieds. Un chirurgien qui est là le pique au scalpel sur la totalité du corps. Les hurlements de Grandier sont entendus jusque dans la rue. Il terrifie les passants. L'examen semble être pour lui un succès. Oui, mais voilà. Il se trouve que le chirurgien est un des hommes cocus, victime du charme de Grandier. Il finit par le piquer du pouce du côté de l'aine. Bien entendu, le curé ne sent rien par rapport à la douleur due au scalpel, donc il ne réagit pas. Et le voilà piégé, puisque déclaré insensible sur une zone. Cette mascarade n'est pas suffisante. Il faut absolument des aveux écrits à l'envoyé du roi, qui prouvent le lien entre le diable et le curé. Si vous préférez, il lui faut s'entendre dire que Grandier a vendu son âme au malin. Le 29 avril 1634, alléluia, Jeanne des Anges fournit opportunément à l'accusation un parchemin prétendument signé du diable et de Grandier dans lequel il accepte de vendre son âme au malin. Sans convaincre, les accusateurs ont donc réuni des prétendues preuves. Sur le document, une tache de sang pour sceller le pacte. Dans un élan de recherche de la vérité, le baron se demande alors de quelle manière il est possible de prouver que c'est bien le sang du curé. On le fait venir, on l'examine. Et une coupure au pouce suffit à mettre en silence les plus sceptiques. Urbain Grandier est bel et bien un sorcier. Le procès, lui, va enfin pouvoir s'ouvrir. En 3 petits jours, l'affaire est pliée. Simulacre de justice. Ce procès qui s'ouvre n'est au fond qu'un exposé des preuves qui ont été trouvées ici et là et qui, disons-le, sont très loin d'être convaincantes. Surtout, alors que c'était son but premier, le baron n'a obtenu aucun aveu. Urbain Grandier, durant le procès, n'aura que très peu d'occasion de se défendre. Les juges le condamnent à mort. Dans une salle comble et chauffée à blanc, il hurle. « Je suis innocent. Mon seul crime est d'avoir aimé les femmes plus que mon Dieu. Mon Dieu est juge parmi les juges. » Le même jour, la sentence est appliquée. Mais avant, toujours pas satisfait, le baron veut obtenir des aveux. Alors le pauvre Urbain Grandier est conduit dans une cave de la ville où l'attend le supplice des brodequins. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'image en tête, ses jambes sont enserrées dans des planches au sein desquels on enfonce des coins à coups de maillet. Pour le dire très simplement, on lui brise tous les os de la jambe. Ils éclatent, plus précisément. Mais aucun aveu ne sortira de la bouche de Grandier. Aucun, pas un seul petit mot. Il avoue ses erreurs humaines, certes, notamment son plaisir de la chair, mais pas plus. Dans une charrette, il est baladé comme une bête de foire dans toute la ville. Il doit faire amende honorable dans une multitude d'endroits, y compris devant son église. Cette église qui, 2 décennies plus tôt, l'avait accueilli sous sa bienveillante fraîcheur. La fin du supplice approche. Grandier est conduit sur le bûcher. Son attitude, là, jusqu'à sa fin, et alors que les flammes viennent lécher ce qui lui reste d'eau, fait beaucoup parler d'elle. Elle est exemplaire. Les questions sur sa prétendue culpabilité, elles, ne font que commencer. D'autant que les derniers cas de possession ne seront réglés à Loudun que 3 ans après sa mort en 1637. Comment pourrait-il en être coupable alors qu'il a été brûlé vif? Jeanne des Anges, elle, devient presque une sainte. Elle est même conviée à la cour pour assister à la naissance du futur roi Soleil. Il ne fait pas de doute que cette affaire de possession est avant tout politique. Mais il n'y a pas un seul responsable. Alors, qui sont-ils, ces fameux coupables? Jeanne des Anges, par qui les accusations ont commencé et qui, selon des recherches très sérieuses, aurait été en proie à des troubles du comportement? Le chanoine Mignon, qui détestait le charme et le charisme du curé? Ou le baron, envoyé par le roi, qui de fait n'a eu de cesse de vouloir faire condamner Urbain Grandier? Un autre potentiel coupable n'a pas encore été évoqué. Richelieu. Tout en vous laissant maître de votre verdict sur les culpabilités à donner à cette affaire, je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une anecdote peut-être plus importante qu'elle n'y paraît et qui servira de morale à la fin de notre heure H. Nous sommes alors en 1618. Urbain Grandier vient d'arriver à Loudun. Un beau jour de printemps, à la fin du carême, il reçoit, pour une procession religieuse, l'évêque de Luçon. La bienséance veut que le cortège soit mené par l'évêque, mais le jeune Grandier, pectoraux en avant, décide de ne pas lui rendre cet hommage. C'est donc lui qui conduit la procession. Pas de bol. Cet évêque de Luçon en visite, qui vient d'être insulté, est autre que celui qui deviendra, après une ascension mirobolante, le cardinal de Richelieu. Et la morale dans tout ça? Si patience est mère de vertu, l'humilité, elle, protège souvent d'un effet pervers bien connu des historiens, l'effet papillon. Voilà donc pour ce récit que j'ai le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.